nouvelle configuration, c'est la même situation, c'est pas la même situation. Elles aussi ont changé de métier dans leur vie professionnelle. Julie travaille dans une école qui sera toujours éducation prioritaire à la rentrée, finalement.
Oui.
Ça n'a pas été facile. Et puis Adeline a eu plusieurs vies professionnelles, elle va vous dire ça tout de suite. Mais on n'est pas censé le savoir tout de suite. C'est toi qui dois commencer, je crois.
Donc on se déplace dans Lyon. J'étais conseillère pédagogique, comme c'est indiqué dans le programme que vous avez en 2013-2014, et je suis inspectrice pour cette rentrée. Et donc nous proposons des regards croisés sur la mise en œuvre du dispositif plus de maîtres que de classes dans Lyon. Donc vous aurez à la fois un niveau départemental, un niveau de circonscription avec deux circonscriptions différentes, et puis un niveau aussi école, équipe, voilà, plus de maîtres que de classes. Donc déjà peut-être présenter de manière globale un peu comment ça fonctionne dans Lyon, et puis ensuite ce sera un petit peu chronologique, avec toujours nos deux regards croisés qui viendront éclairer un peu notre fonctionnement. Donc le dispositif dans Lyon, des écoles qui ont été ciblées, auxquelles on a demandé de construire un projet pour la mise en place de ce dispositif plus de maîtres que de classe, et l'attribution du poste était conditionnée à la rédaction de ce projet et à la conformité du projet avec les attentes, et en particulier avec les documents ministériels qui avaient été produits. Un poste PMQC pour une école, l'année 2013-2014. Cette année, on a vu un poste pour deux écoles, mais du coup, poste non pourvu. Donc après, on pourra en parler aussi. Un groupe d'appui départemental qui a réfléchi sur la mise en œuvre du dispositif en amont de la rentrée 2013 et qui a produit un document que certains ont vu, enfin qu'on a vu en tout cas utilisé par différentes circonscriptions au niveau national, et qui depuis du coup demanderait à être un peu amélioré parce que maintenant on a un peu d'expérience. Voilà.
Qui est dans votre dossier partagé.
D'accord. Un groupe d'appui départemental, je pense, enfin, ça a été vraiment important et ça a été une force pour le département, pour les circonscriptions. On a vraiment pu s'appuyer sur une réflexion au niveau départemental et puis des personnes ressources. Un groupe qui comporte à la fois des inspecteurs, des conseillers pédagogiques, des maîtres formateurs, coordo RRS. J'en oublie.
Une PMQC
qui nous a rejoint, qui c'était pas prévu au départ, et fort justement à un stage, les enseignants ont fait remarquer que ce serait bien qu'il y ait quelqu'un quand même du terrain dans le groupe d'appui. Donc du coup, Julie nous a rejoint dans le groupe départemental. Des postes à profil pour les plus de maîtres que de classe, donc avec des entretiens et puis donc des enseignants vraiment motivés et impliqués pour entrer dans le dispositif. Est-ce que tu...
Oui, donc moi de mon côté, quand on nous a parlé du projet, qu'il y aurait le projet dans notre école, donc on a dû monter un projet donc avec les documents du groupe d'appui. Et ce qui était difficile, c'est qu'on devait monter un projet pour l'année suivante, sachant que l'équipe allait se renouveler à 50%. Donc c'est toujours ça qui est un peu difficile dans les projets. C'est qu'on fait un projet pour après, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais bon, les documents nous avaient quand même bien aidé à monter ça. Et puis, donc, moi, j'ai candidaté parce que j'étais dans l'école depuis 7 ans, je crois. Et j'avais envie que ça se passe bien. Donc, un peu au pied levé, au dernier moment, je me suis jetée à l'eau pour tenter cette nouvelle expérience qui est très positive. Et donc, oui, poste à profil avec un entretien qui était assez poussé quand même. Je pensais que ce serait une formalité et en fait, pas du tout. Et avec le recul, je trouve que ça fait partie des choses qui sont importantes, qui font que ça fonctionne quand même bien. On s'est retrouvés à plusieurs avec les autres PMQC du département. Et je pense que ça fait partie des conditions pour que ça fonctionne bien, quoi. C'est les gens qui sont là, c'est vraiment les gens qui avaient envie d'être là. Et c'est pas les derniers vœux au mouvement, les derniers postes au mouvement que personne n'a voulu, quoi. C'est vraiment des gens motivés. Ce qui fait que, par contre, il y a des écoles, effectivement, où ça n'a pas été pourvu parce qu'il n'y avait pas de candidats. Ça, c'est un problème.
Mais je pense que ça fonctionne maintenant, oui. Je pense que le fait qu'au départ, il y avait un poste par école, c'est quand même plus facile, parce que ça demande beaucoup de temps de travail, de concertation avec les collègues. Et nous, le poste qui est non pourvu là depuis cette rentrée, c'est un poste sur deux écoles différentes, mais dans deux villes différentes, dans deux circonscriptions différentes. Donc c'est quand même compliqué, même si géographiquement c'est pas si loin que ça en kilomètres, mais quand même, c'est pas pareil que il y a eu un poste sur deux écoles à Tonnerre qui sont dans la même ville, dans la même circonscription. Là, il a été pourvu. Donc il y a des contraintes comme ça qu'il faut avoir en tête. Enfin nous, en tout cas dans Lyon, ça s'est produit de cette façon-là. Et puis, un poste par école, c'est très différent entre ton école, qui a du coup 4.
Moi, j'ai une école élémentaire, classes. Donc 4 classes. Et donc, j'interviens aussi en grande section, du coup, pour ajouter. Mais effectivement, c'est un gros volume horaire de PMQC dans l'école, du coup.
Bah, par rapport à des écoles dans ma circonscription qui ont 10 classes ou 9 classes. Et là, évidemment, il y a d'autres choix à faire qui ne sont pas les mêmes que dans une école à 4 classes.
Ah bah oui. Ouais, tout à fait. Nous, on est conscients. Dans Lyon, on est privilégiés, vraiment. On trouve qu'on est, enfin, on a conscience quand même d'être privilégiés parce qu'il y a ce groupe d'appui, parce que c'est un par école PMQC, parce que poste à profil. Et voilà, sans parler de la formation qu'il y a eu après, quoi. Il y a eu quand même une grosse volonté, je pense, de la DAZN qui était là de mettre le paquet, quoi.
Oui. Ah non, oui, bien sûr.
Ah non. On était 13 au début. La première année, on était 13 et là, il y en a peut-être 5 de plus, je crois.
Oui, c'est ça. Ça c'est monté un peu en puissance cette année. Et essentiellement en éducation prioritaire quand même. Hein. C'est très à la marge les postes qui ont été attribués hors éducation prioritaire avec vraiment un profil particulier qui justifiait le dispositif. Mais sinon, c'est essentiellement en éducation prioritaire. Alors, le groupe d'appui, du coup, une force, mais aussi... 15-20 personnes dans le groupe d'appui, donc ça fait beaucoup de personnes. Et puis des personnes qui, par la suite, se sont retrouvées des fois dans des situations un peu inconfortables. Parce que le groupe d'appui, du coup, il avait beaucoup de missions, et y compris, à un moment donné, l'évaluation des bilans de cette première année de fonctionnement. Et c'est vrai que quand on est coordo RRS et qu'on travaille au quotidien avec les équipes, on ne peut pas, on n'est pas, et qu'on a aidé à monter le projet, et qu'on a participé à la construction du projet, à la mise en œuvre des actions, être évaluateur en même temps, là, ça posait souci. Donc, on a réorganisé un petit peu les choses, et on a maintenant, en quelque sorte, deux niveaux de groupe d'appui départemental. On a toujours un groupe d'appui départemental qui pilote, qui donne des orientations, et puis, du coup, un autre groupe qui travaille, qui œuvre à construire les dispositifs de formation qui sont après repris par les circonscriptions. Donc, voilà, on a un petit peu réorganisé les choses par rapport à la première année. Oui. Il y a de toute façon un IEN qui est en charge de la mission plus de maîtres que de classe. Donc, c'est cet IEN-là qui a la main et qui, du coup, pilote le groupe d'appui. Et puis après, c'est le groupe d'appui qui fait les constats et qui, du coup, régule, ajuste, modifie en fonction de ce que l'on constate, de ce qui se passe. Globalement, c'est quand même donc une richesse, toute cette diversité. Et puis, il y a eu des tensions, par exemple, entre mettre eux dans une zone où il n'y a pas de coordo RRS qui avait... En fait, chaque membre du groupe d'appui a eu en charge, en quelque sorte, été référent pour une école, plus de maîtres que de classe. Et donc, les conseillers pédagogiques, dans certaines circonscriptions, se sont sentis dépossédés de leur accompagnement d'école, de par le fait qu'il y avait un référent du groupe d'appui départemental qui était, par exemple, membre de réseau, maître de réseau. Et donc, la place de chacun était un peu bousculée, et parfois, certains se sont retrouvés un peu évincés de leur mission, ne pouvaient plus rentrer dans l'école comme ils y rentraient, parce que quelqu'un d'autre avait pris une place qui n'était pas prise avant. Donc c'est pareil, tout ça, donc ça s'est dit et expliqué, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En effet, ça peut pas se faire sans tension et sans conflit. Bon, bah il y a eu des moments où dans le groupe d'appui, des discussions qui ont été voilà vives, mais qui ont permis d'exprimer ces problèmes d'identité, hein, de voilà, de chacun, et du coup de reposer à plat et de remodifier, d'ajuster, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, ça, des choix avaient des conséquences qui pouvaient poser problème. Donc là, on a présenté un petit peu globalement le dispositif le fonctionnement. Et puis maintenant, on va voir un peu comment ça s'est mis en œuvre chronologiquement, y compris les temps de formation. Parce que c'est vrai que dans Lyon aussi, on a donné beaucoup de temps de formation pour accompagner la mise en œuvre de ce dispositif. Donc une première formation départementale, juillet et septembre, juste du moment où ça a commencé, hein, donc 2013. Avec deux jours fin juillet et deux jours début septembre. Qui concernait, alors, conduite par les membres du groupe d'appui, ouverte par l'inspectrice qui était en charge de la mission PMQC l'an dernier. Et les PMQC en ont bénéficié. Il y avait uniquement les plus de mètres que de classe, que ceux qui voilà, donc Julie en a fait partie. Ça a permis quand même, enfin, de fixer vraiment les objectifs du dispositif, de repartir à la fois du document de cadrage ministériel et en même temps du document que l'on avait produit dans le groupe d'appui. Et personnellement, moi, je suis intervenue sur une journée en septembre sur la co-intervention, parce que c'était ce qui était mis en avant dans les documents de cadrage comme modalité vraiment préconisée, mais qui posait question à tout le monde, aux enseignants, aux formateurs. Voilà, ça, c'était quelque chose qui... voilà. Donc maintenant, c'est Julie qui peut peut-être dire comment elle l'a vécu aussi.
Alors à ce moment-là, nous, on avait une vague idée de notre projet. On savait bien qu'on allait travailler résolution de problèmes, lecture, production d'écrits, mais on ne savait pas trop encore comment, on ne savait pas trop encore ce qu'on allait faire. Et on était à la veille des grandes vacances, donc ça urgeait un peu. Et on s'est retrouvés donc entre PMQC avec des formateurs. Et ce qui était très intéressant, c'était que dans le groupe des PMQC, il y avait des gens qui étaient déjà surnuméraires les années d'avant. Donc ils avaient une expérience. Et en même temps, c'était très difficile pour eux parce qu'ils avaient un poste depuis quelques temps. Et on leur disait, ce que vous faites jusqu'à maintenant, on veut plus ça. C'est plus comme ça qu'il faut faire. Ça a changé de nom, donc ça, c'est plus le même travail qu'il faut faire. Donc à la fois, ils étaient un peu ressources pour nous. Et en même temps, enfin pour les nouveaux, et en même temps, eux-mêmes, ils se disaient, oui, mais attendez, nous, ce qu'on vous dit, ce qu'on a fait, c'est plus ce qu'il faut faire, et on nous dit que c'est pas bien. Enfin, c'était bizarre, parce qu'à la fois, ils nous apportaient leur expertise de pratique, de comment on travaille à plusieurs, et en même temps, ce qu'ils faisaient, c'était plus la même chose de ce qui allait se faire maintenant. Et puis, donc, on a pris connaissance, du coup, avec le groupe d'appui, donc avec des gens qui sont intervenus, donc aussi bien des formateurs de métier, entre guillemets, que voilà, une cordozep, une maîtresse E, qui nous ont fait des apports. Et ce qui était très intéressant aussi, c'était de fédérer un groupe de PMQC. Et autour aussi, avec ce groupe d'appui aussi, on sentait des gens dans le groupe d'appui qui étaient très motivés par ce dispositif. Et en fait, je pense qu'on a pris un peu conscience à ce moment-là de ce que c'était que ce dispositif, de l'importance que ça avait. Voilà, qu'il y avait il y a un début de cohésion au-delà de la classe, quoi, qui... Ouais, tout à fait, tout à fait. On sent que, ouais, voilà, que ça va être différent, quoi. Et pour ce qui est de la co-intervention, c'était quand même notre gros questionnement, hein. Il y avait l'emploi du temps, il y avait qu'est-ce que je fais le jour de la rentrée, mais il y avait aussi cette histoire de co-intervention qui était un peu vécue comme une prescription et pas trop bien acceptée parce qu'on se disait, à quoi ça sert? Pourquoi être deux alors qu'on pourrait séparer la classe en deux et travailler avec moitié moins d'élèves? Et donc là, en fait, avec les formateurs, on a cheminé un peu ensemble parce que voilà, il n'y avait pas de...
Nous, ça a été un réel défi, hein, parce que c'est vrai que on a beaucoup cherché pendant les grandes vacances. Et puis, donc, on a trouvé beaucoup de co-interventions, mais avec deux statuts différents, c'est-à-dire un enseignant plus un maître spécialisé, un enseignant et un intervenant extérieur, un enseignant et voilà. Mais rarement deux enseignants. Identiques en quelque sorte, avec les mêmes vraiment la même fonction. Et du coup, on s'est dit que, en fait, on allait cheminer ensemble avec les équipes, que on allait prendre le problème dans ce sens-là, c'est-à-dire, on a un enseignant supplémentaire dans l'école avec lequel on nous demande de privilégier d'être deux dans la classe. Alors, en quoi ça va nous intéresser d'être deux dans la classe? Quels sont les apprentissages que l'on fait pour lesquels on aimerait bien être deux? Et puis, évidemment, on avait, dans le document de Lyon, vous avez les petits schémas qui présentent les différentes possibilités de co-enseigner dans la classe. Voilà. Et donc, on est parti de ces schémas. Et qu'est-ce qu'on ferait bien avec ce schéma-là? Qu'est-ce qu'on se verrait? Et puis ensuite, on a construit, voilà, alors quels objectifs correspondent à quel type de fonctionnement? Et donc, je pense que ce qui a créé ce sentiment de cohésion aussi et de faire partie de quelque chose qui se crée, c'est que, on a tous découvert et on est tous rentrés dans quelque chose de nouveau ensemble. Alors, le lâcher prise m'a jamais trop posé problème au départ, déjà. Donc, je veux pas dire ça de manière prétentieuse du tout, hein. Faudrait pas l'entendre comme ça, hein. C'est juste que ça me dérange pas d'arriver, il y a un pédagogue qui disait on enseigne mieux ce qu'on ne connaît moins. Et en fait, parce qu'on se pose beaucoup de questions et qu'on cherche beaucoup et que du coup on s'implique, on n'arrive pas avec quelque chose que l'on prescrit justement qui vient d'en haut. Moi je sais comment il faut faire, vous allez faire comme ci, comme ça, comme ça. Non, là on va se poser des questions ensemble. Alors on a tout un bagage. On sait qu'on va aller piocher, ça va faire appel à quelque chose. On a des ressources. Et donc, mais ça c'est très personnel, hein, c'est vraiment là je livre mon vécu, tel que ça nous a certes questionné parce que on a été chercher un peu partout avec la Cordo RRS avec laquelle on a fait l'intervention. Et puis on avait besoin par exemple de vidéos. On aurait voulu vraiment pouvoir montrer une séance, à mettre des images mentales sur ce qu'on peut faire à deux dans une classe. Et à ce moment-là, on n'en trouvait pas. Donc en fait, on a pioché dans notre matériau de tout ce qu'on peut tourner et filmer dans nos classes quand on cherche pour avoir du matériau pour les formations. Et quand on filme, on peut pas s'empêcher d'intervenir souvent. Finalement, on se retrouve un petit peu des fois en co-enseignement parce que l'enseignante elle est avec un groupe. Et puis nous, quand on passe, on fait de l'étayage auprès d'un enfant où on lui demande d'expliquer, de verbaliser sa stratégie. Enfin, voilà. Et finalement, on a retrouvé les schémas du document de Lyon dans des vidéos qui n'étaient pas des vidéos de co-enseignement pensées comme telles au départ. Donc on est parti de ça parce qu'on n'avait rien d'autre. Et puis on a essayé de construire ensemble. Ouais.
Et après, comme c'est la partie difficile, c'est-à-dire que les PMQC sont arrivés à l'école pour la rentrée, parce que donc il y a eu deux jours en juillet, tout début juillet, puis deux jours tout début septembre à la rentrée. Et après, nous, on devait dans nos écoles transcrire ça aux collègues. Donc ça, c'est un peu le rôle qui nous a été attribué depuis le début et qui continue, mais dans une moindre mesure. Mais c'est c'est plus facile de former le PMQC parce qu'effectivement, c'est noté c'est dans les 10 repères, faut pas s'en priver parce qu'il y a pas besoin de le remplacer. Mais c'est un peu lourd, quoi, des fois, parce que on a parlé avec des collègues ce matin. On nous forme. Et puis après, à nous, la lourde tâche d'aller former les collègues en classe, qui sont en classe. Et ce qu'on disait ce matin, quoi, est-ce qu'il faut former le PMQC, puis quelque part creuser l'écart entre ce que lui, il a comme connaissance, du coup, et comme apport théorique? Ou est-ce qu'il faut former directement dans les écoles? Et ça, c'est une question, parce que... Déjà, nous, quand on renvoie dans les écoles, il y a une grosse perte qui s'effectue. Et puis, les collègues ne sont pas forcément prêts à recevoir ou ils ne sont pas... Il faut trouver le bon moment. C'est une position qui est du coup parfois un peu délicate parce qu'on se retrouve un peu en formateur alors qu'on n'est pas formateur et on est... on n'est rien de plus, quoi. Donc, on se retrouve des fois dans une position qui est un petit peu difficile, quoi. Donc, ah bah oui, concrètement, ça m'arrive tous les jours. ce qu'a décrit Muriel, ce que je disais à Muriel, ce qu'elle a décrit dans ces tensions, ce fait de je sais bien ce qu'il pourrait faire là, mais je vais pas lui dire tout de suite parce que peut-être qu'il a pas envie de recevoir. Ça c'est tout le temps, quoi, ce questionnement de là je vois bien que ce qu'il fait ça va pas, mais moi je trouve que ça va pas, mais je suis qui pour lui dire ça va pas? Et puis qu'est-ce que je fais, quoi? Comment je lui dis? Donc, tant que le collègue, il est pas lui-même dans la recherche et dans le questionnement, on va pas arriver en disant, tu devrais faire comme ça, là, ce que tu fais, ça va pas. Moi, c'est comme ça que je ferais, quoi. Donc, oui, c'est tous les jours que ça. Enfin, tous les jours. C'est façon de parler, quoi, mais ça arrive très souvent, quoi.
Alors, dans la Circo, c'est beaucoup la Cordo RRS qui a suivi vraiment, on va dire, au quotidien. Maintenant, les conseillers PEDA et puis l'inspectrice, on a aussi accompagné les écoles. On a été présents, mais moins que la cohorte ORRS qui a vraiment, qui était sur place, qui était dans les écoles, qui travaillait déjà beaucoup avec eux à travers des projets. La communication fonctionnant bien, du coup, on a fonctionné comme ça. Mais enfin, pas pour nous sur Sens, mais c'est vrai qu'il y a des circonscriptions où effectivement la maître par exemple du RASED a vraiment accompagné au plus près une école, et du coup la conseillère pédagogique n'avait plus de poids et plus d'entrée dans cette école pour travailler avec les collègues. Donc c'est ça. C'est plus vraiment quelque chose qui tient aux personnes, au contexte, enfin quelque chose d'assez singulier, mais qui se retrouve peut-être à d'autres endroits. Hein, mais et je crois que l'humain joue beaucoup dans ce dispositif à différents niveaux aussi. Même on a pu le voir tout à l'heure. Enfin pour le c'est très difficile, le plus de maîtres que de classes doit avoir des facultés d'adaptation et de composition avec les différents enseignants de l'école. Et on le voit quand on fait des formations, le même thème, la même thématique de formation avec trois écoles qui sont dans le dispositif, chacun une journée, et bien les trois journées ne se déroulent pas de la même manière, évidemment. La parole n'est pas libérée de la même manière dans chaque équipe. La confiance, la relation de confiance entre les enseignants n'est pas la même. Voilà, il y a beaucoup de choses qui jouent, des fois, qui sont très très loin de... C'est très personnel parfois, enfin voilà, mais ça influe sur le travail en équipe et sur la manière dont le dispositif fonctionne aussi. La rentrée.
Oui, moi je sur donc quand j'ai rencontré j'ai eu des nouveaux collègues donc moi à la rentrée et on sent tout de suite en fait au début tout le monde était très partant, les nouveaux collègues, ah ouais c'est chouette, il y a un PMQC, super. Et puis en parlant, en essayant de construire, bah alors qu'est-ce qu'on va faire, en fait on se rend vite compte, enfin là moi aussi je suis un peu tombée de mon nuage, parce que très rapidement je suis rendue compte qu'il y avait des collègues avec qui ça allait super bien allé, on s'entendait bien, je parle vraiment professionnellement parlant, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement le personnel professionnel était lié, mais des fois on peut très bien s'entendre personnellement, mais on se rend compte une fois en la classe partagée que ben il y a des grosses différences. Et là en travaillant, je me suis rendu compte qu'il y avait des collègues qui prenaient ce dispositif là comme quelque chose qui était en plus et qui allait être lourd dans la gestion. Ils se disaient une collègue qui se disait particulièrement, bon, ben alors là, j'ai sport, là, j'ai piscine, là, j'ai la bibliothèque, bon, puis là, tu viens, alors quand est-ce que je vais faire classe, quoi. C'était un peu ça, c'était quand est-ce que je vais bien pouvoir faire classe une fois qu'il y aura tout ça qui sera passé, quoi. Ah, ça fait un peu mal, parce qu'on se dit, ben, je suis un peu là pour eux aussi, quand même. Enfin, et ça, c'était vraiment... Et je trouve que c'est même quelque chose qui dure un peu encore. C'est... On arrive, quand on est une classe, avec... bon, là, on a bossé pendant les grandes vacances, on a sa classe, toute son petite organisation en tête. Et là, il y a un PMQC qui arrive et j'avais pas trop prévu ça comme ça et il faut que je chamboule un peu toute ma routine, quoi, tout mon fonctionnement habituel. Et puis ça, voilà, ça me prend du temps sur ce que j'avais prévu, quoi. Donc ça c'est pas évident, quoi. Et il y avait aussi où j'avais l'impression de pas être considérée comme une experte, c'est-à-dire qu'on me disait, en gros, on me donnait une fiche de prep où on me donnait, t'iras faire ça, quoi. À leur faire ça. Donc ça, forcément, ça m'allait pas non plus, quoi. Il y avait le PMQC aussi qui était, juste un adulte en plus dans la classe, mais voilà, c'est un rôle défini. Donc là, on se dit, je fais quoi? Du coup, je sais pas ce qu'il va faire. En gros, c'était, tu viens à ce moment-là, mais sans qu'on ait travaillé en amont avant, quoi. Tu viendras pendant que je fais le fichier de maths ou un truc comme ça. Moi, c'était ça qui était dans la tête des collègues au début, hein. Je parlais vraiment à la rentrée, hein, à la toute rentrée. Et puis il y avait donc on va partager la classe en deux, ça sera plus facile, et puis parce que c'est plus facile à gérer une classe qui est partagée en deux, et ça faut pas l'évacuer parce que c'est vrai qu'on a des classes quand même en ZEP qui sont pas toujours faciles, et partager la classe en deux des fois c'est vrai que ça fait du bien aussi à l'instit de pouvoir faire classe sans avoir à monter la voix tout le temps, de pouvoir s'adresser aux élèves, faut pas complètement le négliger, même si c'est des fois complètement au service de l'enseignant. Et puis, j'ai vite vu aussi qu'il y aurait des différences de point de vue pédagogique, qu'elle est pas facile. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire apprendre à lire, qu'est-ce que ça veut dire apprendre à comprendre, toutes ces choses-là. Et y a plein de petites choses comme ça qui m'ont semblé au début, je me suis dit ouf, ça va être dur et un peu ça quoi. Tout ce que j'avais un peu vu et entrevu, ça va peut-être pas être si simple que ça quoi. Puis finalement, bah ça se fait parce que ben on apprend à se connaître, on apprend à travailler ensemble, on fait nos preuves quand même. Et dans les deux sens, hein, du point de vue des collègues et de mon point de vue, je pense que chacun montre ce qu'il a un peu apporté à l'autre, mais enfin le montre pas volontairement, mais on voit chez l'autre ce qu'il peut nous apporter. Et voilà, ça nous apporte beaucoup quoi de travailler à deux. Même les collègues chez qui on a des grosses différences de point de vue, que ce soit pédagogique ou vraiment même en éthique professionnelle, mais ils ont quand même toujours quelque chose à nous apporter. Et inversement, je pense qu'on s'apporte vraiment beaucoup les uns aux autres et on grandit beaucoup ensemble.
Arrivent les vacances de la Toussaint et du coup, 2 semaines de stage de formation, cette fois-ci à destination des plus de maîtres de classe, mais aussi des directeurs et d'un ou deux adjoints par école. C'était en fonction de la possibilité de remplacement qu'on avait.
Il n'y a rien eu d'autre. Il n'y a rien eu d'autre comme formation de l'année dans le département. C'était la seule formation. Par l'été 1.
Ah oui. Enfin, c'est-à-dire que ça a été mis. On a choisi vraiment d'axer sur la formation pour ce dispositif-là. Mm. C'est-à-dire que on a mis de côté. Il n'y a plus eu aucune formation continue par remplacement d'enseignants pendant le temps scolaire. C'était les 2 semaines pour les plus de mètres que de classe. Il y en a eu d'autres encore pour les plus de mètres que de classe dans l'année. Mm. Oui. Sachant que dans Lyon, en plus, le remplacement, c'est compliqué. On est à je sais pas combien de classes non remplacées, c'est bon partout, d'accord. Mais je veux dire, on n'est pas un département dans lequel on a une brigade de remplacement comme ça qui est spécialement en quantité importante. Hein. Et donc c'était vraiment, on avait vraiment envie d'accompagner ce dispositif, d'accompagner les écoles, puis de s'investir dans sa mise en œuvre. C'est pour ça qu'on a voulu déjà ces 4 jours vraiment tout au début, avant même qu'on soit avec les élèves dans la classe, puis un petit peu d'expérimentation. On tâtonne, on voit un peu, puis du coup toutes les questions émergent et on se voit du coup au retour des vacances de la Toussaint. Alors c'était très compliqué pour les formateurs puisqu'on a eu la grille de stage, enfin tout ça a été déterminé je crois l'avant-dernier jour avant les vacances de la Toussaint, et donc on a des interventions qui étaient en co-intervention du coup pour les formateurs, se voir pendant les vacances, tout ça, enfin ça a pas été facile, mais c'est vrai que 15 jours de 2 semaines de stage, c'était extra, et puis c'était au niveau départemental, donc ça permettait de croiser aussi, enfin que toutes les circonscriptions entendent la même chose, que tous les plus de maîtres que de classe et directeurs, et puis quelques enseignants qu'on a pu remplacer entendent la même chose aussi. C'était important. Alors des apports didactiques et puis des apports pédagogiques et également des observations en classe et puis de la présentation d'outils, beaucoup de présentations d'outils à réutiliser, de dispositifs d'évaluation à utiliser pour pouvoir diagnostiquer au plus près les besoins des élèves. Et puis aussi de la mise en place des évaluations dans les classes. Enfin, il y a eu des temps de dégager pour pouvoir aller les passer, les évaluations aussi auprès des élèves. Donc, voilà, un 15 jours de stage qui, je pense, ont été un peu un tournant pour autant les formateurs que les équipes. On a senti vraiment un basculement dans le sens où c'était plus un maître plus pour les élèves en difficulté, c'était un dispositif avec un maître supplémentaire pour les écoles, pour les élèves, pour les enseignants. On a bien vu que ça apportait en fait à tous les niveaux, que c'était enrichissant pour tous et que du coup ça participait à l'amélioration de à la fois des pratiques enseignantes, des résultats des élèves, on l'espère, et puis après c'est rejoint la question de l'évaluation qui nous pose toujours question quand même.
Donc c'était un stage qui a eu un début un peu difficile parce que quand les enseignants viennent en stage maintenant, comme c'est très très rare, je sais pas donc ailleurs, mais c'est vrai que nous il n'y a plus de PAF, ça n'existe plus depuis
3-4 ans.
Ouais, voilà. Donc quand on nous dit 2 semaines de stage, c'est un peu on va à Disneyland quoi pendant 15 jours. Donc on arrive, on est à fond et on a faim quoi. Et on a tellement faim que forcément on est un petit peu déçu parce que ils n'avaient pas eu le temps de beaucoup 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 préparer. Moi j'avais. C'est vrai que j'hallucine un peu de comment ça s'est passé. Mais...
Surtout, le démarrage a été avec le recul, très très mal négocié.
Voilà.
Il a fallu récupérer derrière.
Voilà, on a commencé par nous dire qu'on allait aller analyser des élèves dans des classes, et observer. Donc on devait observer et construire des lits d'analyse. Alors nous, on pensait qu'on allait nous donner à manger, puis on nous demandait de nous fabriquer des trucs qui devaient certainement exister très bien ailleurs, et d'aller observer des élèves qui n'étaient pas les nôtres. Dans des... C'était bizarre. Et donc on a été très refroidis les deux premiers jours, et puis bon, bah, après ça s'est amélioré, hein. On a eu des interventions qui nous ont donné à manger, apporté des outils concrets, après on s'est beaucoup échangé avec les autres équipes, et ça c'est... Voilà, c'est toujours très riche aussi. Alors, les outils concrets, bah, y avait l'affluence avec les évaluations LFE, il y avait...
Les outils de la Cigale, comme par exemple le dispositif des maclés, comme voilà, les évaluations PAR. Enfin, ça a été très, très varié.
Donc, ce besoin d'outils, il apparaît évident, associé à une idée de professionnalisation croissante. Évidemment, avec un arrière-plan qui est la logique des outils qui auraient fait leurs preuves. C'est-à-dire des outils qui auraient une espèce de label recherche. Ça serait le nec plus ultra. Mais même s'ils n'avaient pas fait leur preuve, le fait que ça soit des outils concrets, utilisables, ça, comment dire, c'est associé aujourd'hui à quelque chose de valorisant. Ce qui, au passage, montre que les choses ont beaucoup changé, puisqu'il y a encore pas très très longtemps, les instituts qui se servaient d'outils préfabriqués, un manuel, par exemple, vous voyez l'horreur, était quand même suspecté d'être soit pas très compétent, soit un peu paresseux. Vous êtes d'accord? Il y a un certain nombre d'entre vous, au coup d'œil, vu leur âge, qui ont dû être formés dans une culture, le mien, c'est pas péjoratif, dans une culture professionnelle où on leur disait que quand même, il fallait vite se débarrasser des outils pour faire du sur-mesure. Bon, le sur-mesure en question... Quand on allait 3 années de suite dans la même classe, il n'y avait pas de manuel, mais on voyait bien dans les cahiers, à peu près à la même date, la même chose. Les enfants avaient changé, le sur-mesure restait ce que chacun avait reconstruit. Mais au passage, on est allé tellement loin parfois dans cette espèce de dénigrement d'un certain nombre d'outils professionnels qu'il a fallu reconstruire dans l'autre sens. Je pense qu'aujourd'hui, on est devant une nouvelle génération d'outils et devant des questions nouvelles qui sont posées. Et moi, j'en poserai qu'une, pour ne pas être trop long et que Patrick me gronde pas trop, mais c'est le succès à partir de... La tête de pont, c'est les maîtres E, vous le savez bien. C'est les maîtres E qui sont réputés. C'est à eux qu'on demande les bons outils. Ceux qui auraient fait leur preuve avec des élèves en difficulté, tiens, dans l'exemple qu'on vient de nous donner, la médiation, maître E. Mais cet exemple-là, j'en ai 50, moi, sur le territoire. Maître E, qui vient vous dire que, avec ces enfants-là, ça marcherait mieux de telle et telle manière, qu'ils l'ont testé, et là, vous regardez la nature des outils, et vous comprenez que ces outils-là ont comme caractéristique, alors des outils que j'appellerais relevant d'une approche modulaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut être traité dans une progressivité interne à l'outil, sur un temps limité et à peu près indépendamment de ce qui se fait d'autre dans la classe pendant le même temps. Donc j'opposerai à des outils modulaires, des outils intégrés ou intégratifs ou intégrateurs qui, eux, s'articuleraient avec l'ensemble des dimensions enseignées. C'est-à-dire que d'une part, c'est un double phénomène de découpage du temps, de dissociation des compétences. C'est-à-dire que ce sont des compétences isolées. On va travailler fluence. On va travailler reprise anaphorique. On va travailler, alors, vous avez la liste comme moi, d'un certain nombre de compétences isolées, traitables sur un matériel ad hoc, lire, lier, vous travaillez des inférences avec des images, enfin, je ne vous mets pas la liste, si vous circulez un peu là, vous les avez tous ces outils. Donc, très modulaire, compétences isolées, une évaluation, une compétence, le dispositif de remédiation. Hein. On voit bien cette linéarité entre compétences, tâches d'évaluation, tâches d'enseignement. La plupart du temps, les tâches d'enseignement dérivant d'ailleurs des tâches d'évaluation qui ont servi à repérer la compétence déficitaire. D'où ma grande suspicion, lorsqu'on dit au maître plus, commence par les évaluer, et on va essayer de remédier, ça veut dire qu'on est déjà parti, d'une certaine manière, dans ce schéma-là, qui est un schéma pédagogique, parmi d'autres. Je ne dis pas qu'il n'a pas d'intérêt. Je dis que, et je le pose comme une question de métier, que aujourd'hui, sous prétexte d'aller chercher les outils, les prendre sans s'interroger sur la manière dont ils, comment dire, travaillent certaines compétences et pas d'autres, la manière dont ils les travaillent de manière, on va dire, isolée, décrochée, voilà, hein, pour reprendre un des termes qu'on entend beaucoup, voilà, décrochée, comment se fait la question du transfert, de l'intégration, de la reprise. Et évidemment que si vous faites un dispositif d'évaluation immédiatement après l'entraînement, avec des tâches d'évaluation qui sont isomorphes aux tâches d'enseignement, vous avez des effets positifs. La question aujourd'hui qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il en reste 3, 6 mois après, et dans des situations de transfert, dans des situations plus complexes, de remobilisation, etc. Donc là-dessus, j'allais dire, méfiez-vous. On peut avoir un certain nombre d'effets assez jolis à court terme. Et évidemment, si le dispositif plus de maîtres que de classes était pris dans une pression institutionnelle qui était « prouvez-nous que ça marche en évaluant ». En évaluant vite sur des compétences relativement limitées, on peut s'attendre à avoir des évaluations qui ressemblent fort à ce qui s'enseigne dans ces outils modulaires, et donc avoir une espèce de plus-value à enseigner l'évaluable. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez dans ce cas-là une sorte d'effet de retour entre la politique de l'évaluation. Je viens de changer d'idée, hein. J'ai rajouté une deuxième idée. La première idée, c'était regardons la manière dont les outils découpent les savoirs, organise les planifications et pense l'intégration dans des compétences complexes. Ça, hein ? Regardons comment les outils ciblent certaines compétences et en passent d'autres totalement sous silence. La question numéro 1 aujourd'hui qui est posée, c'est la question de l'oral à l'école et la question du lexique. En termes de prédiction sur les compétences des enfants qui permettent le mieux de comprendre ce qui va se passer à l'entrée au collège sur la maîtrise de la langue écrite, vous avez des compétences-là. Y a-t-il des outils ? Non. Sont-ils enseignés dans ces dispositifs ? Non. C'est-à-dire que vous avez des choses dont toutes les évaluations vous montrent que ça devrait être la cible prioritaire, mais vous avez, voyez, un effet de conformité après des pratiques aux outils disponibles sur le marché. Et donc là, il faut garder vigilance là-dessus, parce qu'on pourrait avoir une sorte de tentation d'une rationalité plus forte, d'une optimisation. Parce qu'il peut y avoir des effets à court terme intéressants. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Hein. Je dis qu'il faut savoir les doser de manière astucieuse, les intégrer au milieu d'autres choses. Et évidemment qu'à un moment donné, avoir une pratique intensive sur certaines compétences pour automatiser certaines habiletés, c'est tout à fait pertinent. Donc me faites pas dire le contraire de ce que je dis. Hein. Je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt. Je dis qu'il y aurait peut-être une dérive aujourd'hui, une espèce de survalorisation d'un certain type d'outils qui pourrait avoir à moyen terme des effets négatifs comme ceux que vous pointiez dans l'expérience grenobloise, c'est ça, ou la région, l'académie, Haute-Savoyarde. Non, ça j'en parlerai pas, parce que j'en parlerai quand on aura sorti les résultats. Pour l'instant, dans cette étude dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une étude donc sur 135 classes de co-préparatoire dont nous avons suivi les élèves pendant toute l'année, et surtout dont nous avons observé les maîtres pendant aussi toute l'année. Donc, pour la première fois, on va avoir, ça on a déjà les résultats, les progrès des élèves, on a mis dans le modèle leurs caractéristiques socio-démographiques, on sait donc parmi nos 130 et une classe, puisqu'il en restait 135, une, quelles sont les efficaces et quelles sont les pas efficaces. Ça, c'est clair. Et donc, bien sûr, on contrôle énormément de variables, dont l'ancienneté des enseignants, dont les outils des enseignants, etc. Et on met dans le modèle les pratiques, ce que font les maîtres, parce qu'on les a beaucoup observés, filmés, enregistrés, codés. Et ce qu'on va sortir d'ici quelques semaines, mois, c'est, maintenant qu'on sait quelles sont les classes efficaces, c'est de voir si les classes efficaces partagent un certain nombre de pratiques pédagogiques identiques, ou si finalement c'est la détermination de la maîtresse qui fait tout.
Nous, on a beaucoup changé notre façon de travailler par rapport à l'année dernière, puisque la première année, effectivement, il y avait de la co-intervention sur la production d'écrit, mais je crois que c'était à peu près sur la production d'écrit, avec quelques classes on co-intervenait aussi en résolution de problèmes, mais souvent justement il y avait externalisation, et puis il y avait le maître sup qui est chargé donc soit de la résolution de problèmes, là souvent où on partageait la classe, ou alors voilà de groupes de besoins phono ou de choses comme ça qui étaient sorties. Et finalement, en faisant le bilan l'année dernière, j'ai dit ça va pas, parce que je voyais bien que ce que je faisais avec mon groupe, ou même avec une moitié de classe, c'était pas, voilà, c'était pas transféré en classe, c'était pas repris. Je faisais des choses que l'enseignant, du coup, ne connaissait pas. Par exemple, quand on faisait lecteur-lectrice, c'est moi qui le faisais. Du coup, l'enseignant de la classe ne le faisait pas, ne connaissait pas. Il avait pas pu se faire la main dessus, donc il pouvait pas y faire référence dans les situations de classe de tous les jours. Donc, on se rend compte que ça marche pas, quoi. Donc là, c'est vrai que cette année, on est quasiment tout le temps en co-intervention. Et on travaille beaucoup plus sur des macro-compétences. On n'est plus dans le saucissonnage, sur le travail sur les micro-compétences. On travaille ces micro-compétences, mais au sein de compétences plus globales. Donc la production d'écrit, la résolution de problèmes et la lecture. Mais voilà, on essaye au maximum de travailler vraiment sur ce qui se fait, voilà, justement sur ce qui se fait déjà en classe, ce que l'enseignant fait en classe. Et de faire changer la façon de faire, mais que ce soit quelque chose de durable, qu'il ne soit pas quelque chose de ponctuel et qui vient à côté de ce qui se fait d'habitude, quoi.
C'est vrai que, pour rebondir sur ce que dit Julie, on a pu voir qu'entre le début, enfin la rentrée 2013, où la co-intervention, c'était une prescription et c'était vécu comme une injonction sans en voir l'intérêt. Déjà au stage de novembre, parce que on s'était construit du matériau, là on avait filmé, on est arrivé avec quelque chose, avec des images mentales, avec de la représentation, voilà ce que ça apporte. Et puis les classes s'y sont mis petit à petit, ça demande du temps. En fait, il faut pas non plus vouloir aller trop vite. Enfin, il faut déjà que la relation de confiance s'installe entre les enseignants, qu'ils apprennent à travailler en équipe, qu'ils se créent des liens aussi pour pouvoir co-intervenir en toute confiance. Et puis, au fur et à mesure, c'est quelque chose qui s'enclenche. Puis après, finalement, maintenant, on voit bien évident, le changement de vision de ce que ça apporte. Alors, ça veut pas dire que tout se fait en co-enseignement, parce qu'il y a selon les objectifs que l'on se fixe, c'est pas forcément la modalité qui est la plus pertinente, hein. Donc il continue à y avoir différentes modalités, mais elle n'est plus vécue comme une injonction, comme quelque chose qui est demandé, et on le fait parce qu'on nous le demande, mais on le fait parce qu'on a vu qu'il y avait un intérêt à le faire et que ça nous apporte quelque chose. Et là, dans le dernier stage, alors je rebondis aussi par rapport à l'oral, on a vu dans les bilans de la fin d'année, du coup, de cette première année de dispositif, que effectivement, l'oral n'était pas travaillé dans le dispositif plus de maîtres que de classe. Donc on a proposé, alors là j'ai fait un bond dans le temps, on a proposé une formation par site d'école, là avec vraiment tous les enseignants, le directeur le plus de maîtres que de classe, le RAZ.
Une journée,
voilà. Mais la thématique, nous, enfin dans la circonscription, pour chacune des écoles, ça a été sur l'oral. Et comment enseigner l'oral, comment évaluer l'oral, voilà. Et avec le plus de maîtres que de classe, qu'est-ce que l'on peut faire, du coup, que l'on ne pouvait pas faire seul et qui faisait que peut-être certaines choses n'étaient pas travaillées, n'étaient pas enseignées. Et donc on a vraiment le sentiment que ça avance, et là on ouvre même d'autres possibles, en effet, sur le fait que le plus de maîtres que de classe peut très bien prendre la classe et l'enseignant titulaire co-enseigner avec un autre enseignant de l'école aussi. Il y a une ouverture parce que des liens se sont créés, une confiance, un travail d'équipe, et que voilà, il y a une dynamique, mais c'est un an après. Enfin, il faut du temps. Je pense que ça demande du temps. Alors, on va peut-être revenir, mais juste pour dire qu'il y a eu d'autres dispositifs de formation. Le problème de la retransmission aux équipes s'est révélé après chaque formation. Après le stage de 2 semaines de novembre, c'est pareil. Même s'il y a eu plus de maîtres que de classe, plus directeurs, plus un ou deux adjoints, il y a quand même des enseignants de l'école qui n'étaient pas là. Et qu'il y a eu quand même 15 jours de stage. Et donc, il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 15 jours. Et ça a été compliqué. Je sais pas, Julie.
Ouais, nous, on n'a pas eu le temps de retranscrire tout de suite. Donc, on l'a fait ça 3 semaines après. Enfin, voilà, après les vacances de Noël. On a pris un mercredi matin pour ça, par exemple. Mais voilà, retranscrire en 3 heures ce qu'on a fait pendant 2 semaines, c'était forcément très épuré. Et puis, pas de temps de maturer. Enfin... Voilà, nous on savait plein de choses, on est revenu en sachant plein de choses, et c'est pas facile de retranscrire aux collègues, quoi. C'est vraiment une situation qui est pas facile, parce que je trouve que en tant que PMQC, on est souvent un petit peu entre deux. On est vraiment complètement dans l'équipe, mais en même temps on est un petit peu à côté. On est un peu entre l'équipe. Enfin, je trouve que dans ton graphique là, il y avait le PMQC au milieu, puis finalement tout ce qui était autour, et c'est un peu ça aussi dans la vraie vie, quoi. On se retrouve un peu au milieu de plein de choses, quoi, et on doit un peu jouer sur tous les tableaux, mettre voilà, faire le lien entre les différentes parties, et c'est pas toujours évident, quoi.
Alors, après, en même temps, pendant cette année 2013-2014, et Patrick, tu y es pas pour rien, du coup, je me suis lancée dans un master aussi, formation de formateur, mais sur Antony, en région parisienne, et ces problématiques-là qu'on a rencontrées dans l'accompagnement des écoles m'ont fait choisir comme sujet de recherche le cours enseignement dans le dispositif plus de maîtres que de classe. Pourquoi ça y est, j'ai perdu mon idée.
Ça a modifié ton regard sur cette situation ?
Non, c'était autre chose. Mais c'est pas grave, ça va me revenir. Hein. C'est pas grave. Ah si, par rapport au retour dans les équipes et l'appropriation par les enseignants qui n'étaient pas là. Du coup, j'ai fait passer un questionnaire à tous les enseignants qui étaient dans Lyon, dans une école avec plus de maîtres que de classe. Et parmi les questions, il y avait justement s'ils avaient bénéficié du stage, et puis s'ils n'y avaient pas bénéficié, qu'est-ce qu'ils en avaient quand même retiré de par la retransmission des collègues, ou qu'est-ce qui avait été apporté. Et certains, quand même, du coup, du fait que des outils ont été présentés, que des dispositifs ont été présentés, il y a des choses qui sont arrivées dans les écoles qui n'y étaient pas avant, et avec du coup la présentation par ceux qui étaient au stage, ça a impulsé de nouvelles pratiques qu'ils se sont appropriées. Donc ça a modifié, certains ont dit que ça avait modifié des choses pour eux aussi, bien qu'ils n'aient pas été dans le stage, en fait. C'est ça. Et puis parce que les équipes, pour beaucoup, y a tous ces moments informels.
On se parle.
Exactement. Il y a le déjeuner, par exemple, dans les écoles RRS, c'est quelque chose. Donc, c'est toutes ces équipes, ça s'essaime parce que cette bascule, mais dans toutes les écoles, oui, c'est vrai que j'ai dit ça, mais cette bascule qui s'est faite pendant le stage, on a senti vraiment qu'il y avait une prise de conscience de l'ampleur du dispositif et de ce qu'il représentait. Et bah, du coup, forcément, par toutes ces discussions, ces moments informels, ça s'est aussi. Voilà. Mais je comprends que ça reste une difficulté quand même de laisser à quelques enseignants qui ont bénéficié d'un stage 15 jours la responsabilité de transmettre ça au reste de l'équipe.
Bon, puis après, il y a le deuxième effet stage qui arrive 6 mois après, où on se dit « Ah oui, j'avais vu ça, tiens, bah, je vais rappeler la conseillère pédagogique qui avait fait l'intervention. » Nous, je sais qu'on avait une intervention sur l'utilisation des réglettes cuisinaires pour la numération. Et 6 mois après, on s'en est rappelé. On s'est dit, bon, bah, là, faudrait peut-être qu'on lui téléphone pour qu'elle vienne nous en reparler. Voilà, il y a des choses qui reviennent après, avec le temps, qui reviennent de façon décrochée, quoi.
À l'issue de ce stage de novembre, on a demandé un bilan à ceux qui avaient participé au stage. Donc, pour avoir aussi un retour sur ce qu'on avait proposé, et on a tenu compte de certaines remarques qui nous ont été faites, en particulier donc la nécessité d'organiser des formations avec toute l'équipe enseignante, ce qui s'est fait du coup en février, toujours de cette première année de mise en place du dispositif. Il y a eu une journée par circonscription pour les écoles. Donc là, dans ma circonscription, c'était apprendre à apprendre, mais toi, je sais plus.
Il n'y avait pas trop de sujets, en fait.
Oui, bon, c'était différent. Après,
c'était différent.
Ça a été à la main des circonscriptions. Voilà. C'est vrai que nous, on avait relevé aussi que le côté dans le dispositif plus de maîtres que de classe, travailler sur la métacognition, sur la méthodologie, sur l'apprendre à apprendre, ressortait peu. Et donc, on avait choisi cette thématique-là aussi. Après, juin, du coup, bilan des équipes.
Donc là, c'est le groupe d'appui qui a fourni encore un document très précis sur comment réaliser le bilan dans les écoles. Donc, un document que vous trouverez aussi qui nous a vraiment beaucoup aidé dans les écoles. Il nous a permis de nous questionner. En tout cas, dans mon école, on a fait déjà en individuel pour vraiment être sûr que tout le monde se pose les questions. Et puis après, en collectif. Et j'ai trouvé que ce temps de bilan, c'était vraiment très valorisant pour l'équipe, pour le travail qu'on avait mené. On s'est rendu compte de tout ce qu'on avait fait. Enfin, quand on s'assied et qu'on se pose, on dit « Ah ouais, quand même, on a fait tout ça pendant un an. Ah ben, dis donc, on a sacrément progressé, qu'on a fait sacrément de choses. » Et puis, on n'est plus les mêmes. On n'est plus les mêmes qu'un an avant. Et puis, ça continue, quoi. On a pris un peu conscience de tout ce qu'on avait avancé, quoi.
Ces bilans, on les a étudiés en groupe d'appui à la rentrée. en cette rentrée, mais ce sont à chaque fois des personnes qui ne sont pas de la circonscription des écoles concernées qui ont étudié les bilans pour évidemment éviter du coup ce qu'on avait repéré, ces difficultés de certains membres du groupe d'appui de se retrouver à la fois accompagnateur, évaluateur de ce qui se passe. Donc voilà, les bilans ont été étudiés par des personnes extérieures à la circonscription de manière à éviter ça. Et puis on a eu encore donc une formation fin juin 2014, deux jours, et puis à nouveau à la rentrée. Alors avec à la fois donc les nouveaux entrants dans le dispositif et les anciens, mais c'était des temps séparés. Hein, on a fait et juste à la fin de ces deux jours, un temps commun pour essayer de permettre des échanges et une mutualisation entre les anciens et les nouveaux, mais ça a été pas très réussi, ce moment de communication. L'intention était bonne, mais c'était un peu... La parole n'était pas libre, il aurait peut-être fallu que les inspecteurs soient pas là, ou je ne sais pas. Il y a des fois, certaines fois, c'est nécessaire pour que des échanges se fassent. Donc, après, cette année, donc on a étudié les bilans. On en a, du coup, à partir de ces bilans, décidé comment on allait procéder à la formation qu'on allait dispenser pour l'année 2014-2015. Et donc, on a choisi vraiment d'avoir une journée de formation par école, par site d'école, au plus près de leurs contraintes locales, avec des thématiques qui étaient décidées au niveau départemental de par justement ce qui ressortait des bilans. Alors on n'a pas fait le choix, par exemple, quand on voit que beaucoup travaillent la lecture, on va faire une formation en lecture. Non, au contraire, on s'est dit personne ne travaille l'oral, on va faire une formation sur l'oral. Voilà, on a pour la circonscription, c'est ce qu'on a choisi. Mais du coup, chaque circonscription a produit a décliné des formations différentes. Et puis on aura d'autres temps de formation, mais voilà. Est-ce que tu veux peut-être...
Oui, moi, parce que comme il y a beaucoup de formateurs, forcément, moi, j'ai vraiment l'impression que le dispositif, en tout cas, nous, ça a beaucoup changé la relation qu'on avait avec l'équipe de circonscription, puisqu'avant, effectivement, on ne les voyait pas. Moi, je voyais les conseillers pédage, on les voyait aux animations une fois de temps en temps, ou quand ils venaient visiter des stagiaires chez nous. Et là maintenant, alors je sais pas si c'est le groupe, je sais pas, c'est quelque chose qui est un peu général effectivement, quoi. Est-ce que c'est de par les stages qu'on a eu, on est rentré en contact. Nous, je sais que maintenant on les appelle pour des conseils de maître quand on veut vraiment faire le point. On dit vous pouvez venir pour voilà, ça fait un regard supplémentaire et on se dit beaucoup mieux les choses quand ils sont là. Ça nous aide beaucoup à avancer. Et puis donc maintenant ils font un peu partie de l'équipe alors que c'était pas du tout le cas avant, quoi. Ils font partie de l'équipe en étant quand même un peu loin, mais on sait qu'ils sont là et quand on a des questions, on leur pose. Alors qu'avant, très franchement, ça ne nous serait même pas venu à l'esprit parce qu'on ne les connaissait pas finalement, quoi. Donc ça, je trouve que c'est quand même quelque chose que ça a apporté. Par contre, notre attente vis-à-vis des conseillers PEDA, elle a changé aussi parce que je pense qu'on est devenu beaucoup plus exigeant parce que maintenant, comme on est plusieurs, on se forme beaucoup plus. Le PMQC, on est source, on peut apporter des choses à l'équipe, parce qu'on a l'esprit un peu plus libéré, on n'a pas la pression de la gestion de la classe, donc on a plus le temps, au moins plus l'esprit libre pour aller chercher des choses, pour s'informer, lire, etc. Donc on apporte des choses, mais l'équipe, elle se forme beaucoup aussi par elle-même, et entre elles. Et du coup, quand on soit de la formation, j'ai le sentiment qu'on est beaucoup plus exigeant parce que la formation, on va la chercher par nous-mêmes. Donc, il faut vraiment que le conseiller PEDA nous apporte quelque chose de plus que ce qu'on pourrait trouver par nous-mêmes, quoi. Et là, ça nous est un peu arrivé. Là, justement, dans notre bilan de juin, on s'était rendu compte que on aurait bien voulu travailler l'oral, mais qu'on n'avait pas réussi, qu'on n'avait pas réussi à s'y mettre vraiment, qu'on n'avait pas trouvé des choses, là, qu'on n'avait pas trop cherché. Donc, on s'est dit ça en bilan. Et donc, au stage qu'on a eu par école là au mois de novembre, les conseillères sont arrivées en nous faisant une journée de stage sur l'oral. Sauf que nous, on avait eu deux mois de vacances, on avait eu septembre, octobre, et on avait travaillé pendant ce temps-là et on s'était formé. Du coup, notre attente a été plus pareille parce que ce qu'elles avaient à nous apporter, c'est bon, on était déjà passé à autre chose, quoi. Et ça, je pense que c'est du coup. Quelque chose qui pour les formateurs va être pas forcément facile parce que on avance, quoi, et on avance beaucoup plus vite qu'on avançait. Et puis il va falloir que du côté de la formation ça avance aussi. On le ressent aussi en anime PEDA parce que là il y a des choses là actuellement sur la compréhension explicite. Mais on part pas de zéro, nous. C'est...
Ça dépend des circonscriptions, en fait. Ça dépend du positionnement qu'avaient déjà les CPC dans la circonscription avant, de la place qu'ils avaient auprès des collègues. Est-ce qu'ils étaient déjà sur le terrain ou est-ce qu'ils étaient dans le bureau? Enfin, il y a plein de choses. Ça doit être très différent, je pense, selon les lieux et les équipes. Je l'ai pas ressenti. En fait, cette proximité avec les écoles, nous, dans la circonscription, les conseillers PEDA, on l'avait déjà quand j'étais conseillère PEDA. On était déjà beaucoup dans les écoles. On faisait déjà des stages d'école sur la gestion de l'hétérogénéité, la différenciation. Donc, cette dynamique de travail ensemble, on l'avait déjà. Mais dans certaines circonscriptions où ça l'était pas forcément, bah du coup, je peux imaginer qu'effectivement, ça change beaucoup de choses pour les formateurs.
J'en ai eu des témoignages.
Et effectivement, les formateurs ont vraiment apprécié, eux aussi, être aux côtés des collègues dans les écoles, être sur le terrain, être avec eux, accompagner ce dispositif, ça leur a vraiment beaucoup apporté. Et par contre, j'ai pas eu de retour après stage, là, par exemple, de leur point de vue, savoir si ils ont mesuré peut-être la frustration.
Non, mais on est poli, on a...
voilà, je ne sais pas ce que ça... Peut-être que maintenant que je suis inspectrice, ils ne me l'ont pas dit, moi aussi, les enseignants de la circonscription, je ne sais pas. C'est un dispositif qui a fait bouger beaucoup de choses pour beaucoup de personnes, en fait, je pense. Autant les enseignants qui vraiment le vivent au quotidien que les équipes, les formateurs qui doivent du coup construire et accompagner, et puis les circonscriptions au niveau départemental, après éventuellement au niveau académique, ça dépend dans les académies comment ça se passe. Et puis, enfin, on voit bien que ça questionne beaucoup, que ça interroge, ça rend curieux. Et je pense que c'est pas pour rien que du coup ceux qui sont dans les masters aussi se lancent dans des recherches qui sont sur ce dispositif. Ça modifie nos relationnels du coup, ou nos manières de fonctionner et d'enseigner et de voir l'enseignement. Donc, plutôt positif, hein, nous, notre vécu et notre ressenti